Bienvenue à tous et à toutes sur Radio B. Il est l'heure de Résonance. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne, au microphone Alain Goudard. Aujourd'hui, deuxième volet de notre rencontre avec Beniat Hadjari, qui, depuis sa naissance, a pour lui le chant, et le chant qui ponctue chaque instant de sa vie. Les Basques chantent comme ils respirent, seuls ou en groupe, en famille comme au travail. Pour Beniat Hadjari, c'est son pays qui fut son professeur de musique, et pour lui, chaque chose est source de musique. Le chant du vent dans les arbres, celui de l'insecte ou simplement celui de la langue du peuple basque ou celle des poètes, d'où qu'ils soient. Résonance sur Radio B, comment vous avez fait pour être là? C'est une très bonne question musicale, Beniat Hadjari. Et là, nous venons d'entendre justement ce merveilleux artiste qu'est Beniat Hadjari dans une pièce intitulée Aranoak, l'aigle. Et dans ce chant, Beniat Hadjari nous fait vivre de manière incroyable la célébration des oiseaux, la mécanique du vol et le mystère des chants, cette intimité du corps, de l'humain et de la nature. Alors nous allons retrouver maintenant Beniat Hadjari dans les jardins de l'hôtel Oartzia à Saint-Jean-de-Luz pour ce deuxième entretien et cette deuxième partie d'échange. Hier, Thierry Biscari m'évoquait, je prends ce chemin là aussi pour continuer à naviguer autour de, de cette présence de la Chalaparta, de sa manière, de comment elle existe aujourd'hui, ou comment ça retraverse toutes les questions qu'on vient de dire.
Ah oui, on parlait de ça.
Voilà, et par exemple, quand elle devient, on évoquait des œuvres classiques, prenons Ravel, dont ici c'est son antre aussi, ouais. Hein, Saint-Jean de Luz, sa maman poissonnière, voilà, très ancrée aussi dans cette culture, l'Espagne, oui. Sa relation.
On dit qu'il parlait basque. Hein.
On dit aussi qu'il parlait basque, ouais, effectivement, ouais. Et qu'elle est justement
là. Il a corrigé même sa mère dans certaines expressions dans basques.
Voilà, ouais. C'est ça. Et donc du coup, il y a aussi les pianistes, les sœurs Labec, qui ont aussi très présentes, originaires aussi d'ici. Et puis, on a invité à un moment donné Thierry Biscari à se dire peut-être que ce boléro de Ravel que tout le monde connaît, peut-être que la Chalaparta et certains autres instruments traditionnels, puisqu'il n'y avait pas que la Chalaparta qui se trouvait mêlée dans cette idée-là, puissent remplacer la caisse claire. En tout cas, ouais. Que pensez-vous, vous, de cette manière peut-être de...
Je ne suis pas persuadé. Là.
Voilà, d'où on emmène la Chalaparta dans cette partie-là.
Je ne suis pas persuadé.
Oui.
Encore que je reconnais qu'il faille beaucoup de techniques, beaucoup de...
Bien sûr.
D'habileté, beaucoup d'adresse pour faire ça. Mais... je ne suis pas persuadé que c'est le bon endroit.
C'est ça.
Non.
Oui.
Bon, il faut savoir écrire avec un jeu pareil.
Là, il y a ça.
Il faut savoir écrire avec un jeu pareil.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il vaut mieux utiliser le pouvoir de la Chalaparta dans une écriture contemporaine. Mmh. Que de lui faire remplacer...
C'est un peu ma question, c'est ça. Hein? C'est ça.
Non, mais pour ça, il faut connaître, moi je suis loin de les connaître tous, mais
bien
les
sûr.
Grands compositeurs contemporains, quel que soit le style, la
bien
musique
sûr.
Fractale, la musique sérielle,
sérielle ou autre,
ou peu importe, qui sont capables de ça.
Est-ce que ça veut dire aussi que quelque part, à votre
il faut les connaître.
Voilà. Est-ce que certains compositeurs se sont intéressés justement à cet instrument-là, ou plus ou moins?
Luis de Pablo, par exemple,
oui,
s'est intéressé.
Voilà, Luis de Pablo, oui, effectivement.
Mais je crois que lui, il a laissé, d'après ce que m'a dit Rochien, tu sais, il a laissé s'exprimer telle qu'elle était à certains moments.
D'accord.
Donc, je crois qu'il a fait ça.
Il a plutôt laissé la manière improvisée à l'intérieur, peut-être, de la forme musicale qu'il a imaginée.
Oui. Mais bon, pourquoi pas, hein, si ça prenait peut-être un très beau sens dans son écriture.
Mais peut-être, tout à fait.
Je ne connais pas la pièce, donc je ne peux pas juger. Mais en tout cas, c'est très possible de faire cohabiter, du point de vue de la naissance, plusieurs styles musicaux. J'en ai entendu, par exemple, l'autre jour, j'écoutais le Bach du dimanche.
Oui.
Des transcriptions de Bach pour le piano et le clavecin.
Oui.
C'est extraordinaire.
C'est magnifique aussi, ça.
Ou alors, un unisson presque entre une chanteuse traditionnelle suédoise et une violoniste traditionnelle suédoise qui joue du Bach. C'était extraordinaire. Hein.
Ouais.
Et la personne qui nous a fait écouter après Glenn Gould jouer aussi du Bach, elle reliait les deux d'une manière très habile. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a guidé...
C'est ça, les pas des auditeurs dans ce chemin commun, finalement.
Oui, oui.
Commun. Oui.
Commun, tout à fait commun.
C'est ça.
Alors voilà, donc... mais bon, moi je dis ça, je suis que...
Non, mais c'est...
Une fourmi, là.
L'idée, c'est de se dire, tiens, aussi... peut-être, effectivement, que les chemins de la création, les chemins des compositeurs d'aujourd'hui...
Le pire, c'est... Au point de vue, on en est du débat, de dire je sais
c'est ça.
Et donner des leçons.
C'est ça, ça c'est
moi,
pas possible, effectivement.
Non, je suis loin de.
Mais on l'entend bien dans vos
pouvoir,
propos.
voilà, donner une leçon, je suis. Non, c'est pas du tout mon propos.
Hein. Bien sûr.
Il faut chercher sa voix, et moi.
Mais c'est ce que je trouve.
Sur la terre, hein.
C'est ça, elle invite aussi à ça, la Chalaparta. Elle oblige à chercher. C'est-à-dire, on rappelle encore, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une poutre et on a deux morceaux de bois, je fais volontairement très rustique. Et c'est cette rencontre avec cet instrument qui va se passer.
Oui,
donc ça demande vraiment tout un chemin, effectivement, pour celui ou celle qui voudra s'aventurer à écrire, aller peut-être au-delà que la simple vue de se dire oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça, parce qu'il n'y a qu'une poutre et deux bois, et de prendre conscience là aussi que peut naître aussi quelque chose, et de comment ça peut se marier avec d'autres. On peut parler de la voix et d'autres instruments.
Il faut en avoir besoin, il faut la connaître.
C'est ça, il faut la connaître.
Et quand on l'a connue, elle est par là.
C'est ça.
Et à un moment donné, on aura besoin d'elle. Cette nécessité est absolument nécessaire pour composer. Si on n'en a pas besoin, il vaut mieux pas...
Il vaut mieux pas écrire, voilà, c'est ça.
Non, il vaut mieux pas.
Complètement. Il faut vraiment la ressentir en soi pour dire que c'est une nécessité, effectivement.
C'est vrai qu'au surgissement du geste créateur, il faut cette nécessité du son, de vivre ça, ou de, pour avoir la chance d'une justesse possible. Parce qu'on peut être malhabile, tout ça. Mais en tout cas, le processus me paraît formidable. Quoi.
Vous avez enseigné au conservatoire de Bayonne, justement.
Ouais. Oui.
Et je crois que c'était peut-être un département musique traditionnelle, par exemple.
À l'époque. C'était un département, parce que le concept de M. Fleuret, et c'était à l'époque la conception d'un département de musique traditionnelle et pas de la technique
traditionnelle,
même sans culture d'un
bien
instrument
sûr.
Traditionnel. C'était pas apprendre à jouer du tistou.
C'est ça.
Un département, donc on a été formés pour ça d'ailleurs, et c'était un débat au sein du mouvement de la musique traditionnelle dans les années 80. Est-ce qu'on va perdre la pertinence de l'oralité si on rentre là?
C'est ça.
Ou pas?
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec cette expérience?
Moi, j'étais pour tenter le coup.
Vous étiez prêt à tenter le coup. Et aujourd'hui, avec le regard sur...
Voilà, je vais vous dire, j'ai connu 4 directeurs.
Oui.
Alors, les premiers ont été formidables.
Oui.
Et les deux autres, non.
Non.
Il a fallu lutter pour...
Permanence.
Pour exister.
Et ça veut dire aussi que... Vous évoquez que les deux ont été formidables. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, ce département de musique traditionnelle existant dans l'institution conservatoire, comme on peut le connaître, je crois que c'est un conservatoire à rayonnement régional, donc d'autres disciplines, d'autres manières d'aborder la musique. Est-ce que ça a transpiré aussi, je dirais, dans les collègues qui étaient là, dans la manière de dire, on sait qu'il y a de la formation musicale, on sait qu'il y a des pratiques d'orchestre. Est-ce que, je dirais, cet état d'esprit que pouvait transmettre aussi ce département, et puis on peut imaginer qu'il y avait un département de musique ancienne, qu'il y avait peut-être un début de département de musique actuelle. Est-ce que là il y avait des transpirations, que ça a généré des choses?
Alors, mon avis sur la question est, même si on a des directeurs comme les deux premiers qui étaient pour en conscience, qui étaient aussi des musiciens, voire des chefs d'orchestre, comme le second aussi, et le premier aussi, les deux étaient des chefs d'orchestre, pardon. Très différents, en tout cas, il était. Il n'y a pas assez de temps. On n'a pas pu. Cet enseignement s'est détérioré, à mon avis, trop vite. Et on n'a pas eu assez de temps pour que... on s'interpénètre tous.
C'est ça.
Il faut beaucoup de temps pour ça.
Mais bien sûr.
Il faut des petites révolutions personnelles de l'un ou de l'autre.
Tout à fait.
Il faut savoir en parler, se réunir. Il faut avoir des occasions de jouer.
Oui, bien sûr. Et de faire ensemble.
De faire ensemble.
Parce que du coup, ils ont dû découvrir un peu la Tchalaparta au travers, j'imagine.
Alors, on n'a pas eu des cours de Tchalaparta.
D'accord.
Non. Mais ils l'ont découverte dans des
spectacles. Dans la pratique, voilà, c'est ça.
Par exemple. Je pense honnêtement qu'il nous a manqué du temps et que le troisième et le quatrième sont venus. Ils auraient pu porter tout ça encore plus haut, ils ne l'ont pas fait.
Oui, parce que là, c'est des volontés, c'est des choix, bien évidemment.
Oui. Ouais. Donc... disons, l'utopie créée des années 80 a été portée
fort,
elle a monté.
C'est ça.
Mais après, non. Mais je pense que, je suis un peu cruel peut-être, mais que les deux derniers, ils avaient une vision pour toutes sortes de musiques.
Oui, parce que c'était peut-être pas spécifique.
Donc, il y a un temps pour le reste aussi.
C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est peut-être aussi tout un débat qu'on vit aujourd'hui, hein, justement, la place de toutes ces pratiques musicales dans une massification aussi des formes musicales qui aujourd'hui sont très fortes et ont beaucoup prégnance, et de faire exister des courants musicaux qui sont, dans ce qu'on disait tout à l'heure, reste un combat quand même journalier.
Oui, oui. Il ne faut pas lâcher le morceau, mais il faut que tout soit prêt pour que ça advienne.
C'est ça.
Que ça advienne.
Que ça advienne, oui.
Ça, c'est aussi très important.
Oui, parce qu'il faut que ça vienne, mais il faut que ça advienne. Et voilà. Ça, c'est encore un autre combat,
oui,
effectivement.
Oui, on ne peut pas commander à ce que ça advienne.
Non, ouais, complètement.
Il faut tout préparer pour que ça advienne. Et ça, je pense qu'il faudrait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps.
C'est ça.
Vous voyez ? Les carottes ne sont pas cuites.
Non.
Je suis au fond de moi, même si je n'enseigne plus, et malgré les deux derniers, je critique leur point de vue, mais leur personne, non.
Bien sûr, ça, bien sûr.
Qui je serais pour condamner comme ça.
Entend totalement ça dans vos propos, qu'il ne s'agit absolument pas de jugement, mais d'observation.
D'observation.
Absolument.
Voilà. En tout cas, ce que je pense, c'est ça. Mais ceux qui disaient qu'il fallait rester dehors,
oui,
c'est très difficile aussi parce qu'il faut les mêmes choses pour réussir dedans ou dehors.
Ou dehors, voilà. Et on voit bien que c'est ce chemin qui n'est pas facile, oui, effectivement, mais qu'il faut pouvoir emprunter.
Il y a du traditionalisme dans la tradition.
Tout à fait.
Aussi. Donc,
qui est aussi néfaste. Enfin,
oui.
Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, peut-être enfermant, peut-être et empêcher son évolution et son développement.
Il ne faut pas oublier que le processus de la musique traditionnelle, c'est la naissance.
Il ne faut pas perdre de vue ça.
Et non.
Effectivement.
Je me rappelle des amis qui collectaient quelqu'un, par exemple.
Oui.
Voilà, qui était très réputé pour ça. Mais 2 ans après, ils étaient toujours en vie. Mais qu'est-ce que tu connais comme chose, toi ? Mais je ne sais pas s'il avait du couillon ou comme ça, mais enfin, mon copain, mais depuis que tu es venu, toi, mais je me suis remis à composer.
Voilà, ça avait déclenché quelque chose parce que ça avait réactivé une conscience.
Oui. Donc, ils en avaient encore pour un moment. Hein.
Mais c'est ça qui est passionnant.
Mais oui.
Après, c'est effectivement je pense que si on repense au fait que vous étiez dans un établissement comme celui-là, c'est les relais, quoi. C'est-à-dire comment, même si on sait bien que les personnes qui viendront emprunteront des chemins différents.
Oui, mais nous, on était des contrebandiers, mais comme on le faisait avec sérieux et pour la beauté du geste,
c'est ça.
On a eu des rencontres de classe, par exemple, entre Albi et nous, à Saint-Engrasse,
d'accord,
dans Haute-Soule.
Oui.
Et là, le professeur de chant lyrique y était et le premier directeur y était.
Y était. Ouais.
Et ils savaient que c'était sérieux.
C'est ça, c'est ça. Et donc là,
c'était pas de l'exotisme.
C'est ça, oui. Parce qu'il y a aussi tout ça à franchir, effectivement. Mmh. Les représentations que chacun se fait, voir après les préjugés qui peuvent en découler, les négations, les non-volontés de voir exactement ce qu'il en est.
Oui.
Et puis, ne serait-ce aussi parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est là et ça peut revenir mettre en cause des pratiques aussi ou des manières de faire et ça vient questionner profondément tout ce que vous disiez tout à l'heure.
Mmh.
Et ça, c'est communément à n'importe quel autre instrument, n'importe quelle autre pratique collective et autre. On sent bien que c'est des fondamentaux qui sont là et donc peut-être viennent perturber aussi une manière de faire, une manière d'envisager les choses.
Il faut laisser les expériences vivre. Après tout, personne n'est parfait.
Absolument.
Il y a aussi du bon raisonnement, parfois, dans ce qu'on on considère comme étant néfaste.
Oui.
Il faut comprendre, il faut convaincre, il faut...
C'est ça, il faut se mettre à comprendre l'autre.
Comprendre l'autre.
Quelle que soit la posture où il en est.
Hein. Il faut se remettre en question aussi soi.
Oui.
Et si on ne fait pas ça, on fige quoi, les
ça.
Choses. On se met nous-mêmes à juger, machin truc.
Oui, on prend des postures, ça y est, tout de suite, autre, et à partir de là...
Et on bloque le processus.
Et on bloque le processus d'évolution.
Ouais.
Ça me paraît important.
C'est ça, ce que je pense,
Donc, la Chalaparta, elle a encore de quoi vivre intensément.
Voilà, donc, à mon avis, aujourd'hui, donc, il y a son esprit traditionnel à retrouver
d'une
manière plus profonde.
Oui, retrouver cette profondeur.
Ouais. Sans toutes les autres pratiques de la Chalaparta, accorder les poutres, ne plus ne plus improviser,
oui.
et tout ça. Elles ont eu aussi des effets positifs dans le sens d'avoir pu perfectionner certains gestes, certaines habiletés, etc.
Oui.
Oui. Mais une technique sans culture, c'est pas grand-chose. Hein.
C'est ça.
Ça ne reste que.
Si elle n'est pas reliée, effectivement, au fait que vraiment une culture profonde, la technicité reste de la technique.
Oui, elle reste pauvre.
Oui, c'est ça.
Donc, je pense qu'il y a. Puis alors, la fascination reste.
Bien sûr.
Même ceux qui jouent sans improviser et sur des poutres à accorder.
Oui.
Donc, il faut aussi...
Lutter aussi, que ça ne reste pas qu'une fascination,
voilà.
Mais qu'on aille au-delà aussi.
Au-delà, ouais. Mais l'envie de jouer oui. reste quand même.
Oui, c'est ça.
Donc,
c'est
ça. Malgré tout, le jeu de Chalaparta, sur les poutres et tout ça, continue de donner envie à des jeunes musiciens de jouer.
Oui, parce qu'il y a certains jeunes qui prennent le relais.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est... très important en nombre aujourd'hui, mais en tout cas, on voit qu'il y en a qui ont envie de...
Et il y en a toujours hein, qui c'est s'y ça. Mettent, mais il faudrait là, maintenant, qu'ils tombent sur les bonnes personnes pour...
C'est ça, pour pouvoir être bien épaulé, oui. pour pouvoir cheminer dans voilà. le bon sens.
Voilà, voilà. Pour ne pas la réduire à une polyrythmie qu'un bon joueur de marimba peut jouer tout seul avec quatre baguettes.
Bien sûr, bien sûr. Oui, il ne faut pas que ça tombe dans ce registre-là. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tellement aussi des choses très rythmiques et autres. La séduction peut être très rapide, avec cet aspect de fascination de rester qu'à cet endroit, alors que ça peut aller bien au-delà de cet aspect.
Oui, parce que pour se moquer un peu de nous, je l'ai vécu au conservatoire.
Oui.
De bons percussionnistes classiques disaient « Mais moi, je peux jouer tout seul.
Et oui.
Ceux qui jouent les deux. Hein. »
Et oui. Bien sûr, bien sûr.
Bon, on rit un bon coup, puis on continue à discuter.
Voilà. Voilà. Et il y a ce premier abord, quoi. Mais après, ouais. quand on rentre dans le vif du sujet,
oui.
c'est pas pareil.
Après, on discute dur.
Voilà, voilà.
Mais toujours entre bons copains.
J'imagine, gentillesse et respect.
Oui, oui, oui. Thank you.
Résonance sur Radio B. Comment vous avez fait pour être là, au bon endroit et bien accompagné? Et c'est bien une question musicale. Benyat Achari. Alors, nous avons entendu successivement Ravel N. Marmitako, qui est un mélange, pour cette pièce-là, un mélange inspiré de l'ostinato, du boléro de Ravel. Je pense que vous avez reconnu justement la rythmique spécifique du boléro de Maurice Ravel, musicien et compositeur basque, d'origine basque. Et puis nous avons entendu L'appel dans la vallée, interprété, donc que ce soit le Ravel N. Marmitako et L'appel dans la vallée par Jean-Claude Henrique et Chomine Ders. Et pour cet appel dans la vallée, c'est une forme de rythme ancien, on dit qu'il servait d'appel différent selon la façon de le jouer. Là, ce rythme, cet appel, est mixé avec des appels de cornes et de conques qui servaient également pour appeler ou annoncer.
Parce que c'était tellement fragile à certains moments, ici, que certains ont développé par leur peur, hein. Moi je ne critique pas, au contraire,
bien sûr,
j'entends
oui.
Très bien ça, le fait de, on reste entre nous,
c'est ça.
Si quelqu'un rentre, on va perdre ce qui fait qu'on est nous.
Et ça,
c'est pas bon, ça.
Tout à fait. La peur de l'autre est de faire qu'on perde son identité parce que l'autre arrive,
oui.
Alors que non.
Et non, parce que moi j'ai remarqué que, justement, quand on retrouve le vivant dans sa culture, comme par hasard, on entend mieux tout le reste.
Exactement.
Comment ça se fait, ça?
Oui.
Ça, je l'ai remarqué, ça.
Mais vous avez raison.
Oui. Et je pense que c'est pour tout le monde. Hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Quand on retrouve, on est ouvert comme une fleur, là.
Et c'est les autres qui nous permettent de... c'est cette ouverture à l'autre qui nous permet de, justement d'avoir cette attitude d'ouverture.
Ah ben oui, après c'est gagné, quoi.
Complètement.
Et on ne trouve pas néfaste d'être ouvert. Mais pour justement éviter l'annihilation de sa propre culture dans l'ouverture, il faut soi-même être très vivant, en rapport vivant par rapport à sa propre culture. Fermé, voilà. Rien de plus contradictoire que...
Complètement.
Mais il faut reconnaître qu'il y a tout a été fait pour aussi créer ce sentiment. Quand
Absolument.
On opprime une culture,
oui.
Quand on la punit,
c'est ça.
Et quand on crée ce truc-là.
Mais absolument.
Oui.
Et il y a quelques jours, je lisais La langue vulgaire de Pasolini. Et il fait état aussi justement au moment où la diversité des langages en Italie et des dialectes qui existaient a été à un moment donné complètement... On a imposé la langue officielle, et la langue officielle c'est le florentin qui a été imposé à toutes les cultures, à toutes les diversités des dialectes qui existaient en Italie. Et ça s'est fait par une imposition très forte. Vous parliez là vraiment
ah oui.
On a puni, on a vraiment maltraité ceux et celles qui étaient porteurs de cette langue. Mmh. Et c'était un conflit majeur, justement, qui a été quelque chose de très important au niveau de l'Italie, dans sa globalité, dans sa richesse aussi. Et je pense que, d'ailleurs en France, même si tout ça s'est fait plus tôt, nous, à la Révolution, toute cette manière de faire que le français devienne aussi la langue qu'on a imposée. Et du coup, on a annihilé tout un ensemble de langues aussi, et de richesses de langues, de points de vue aussi, pour le désir de se dire, bon, si on ne met pas une langue unique, on n'a pas assez le pouvoir sur l'ensemble de cette population, l'autre étant différent. Bon, du coup, voilà.
C'est la question de pouvoir.
C'est ça. Et on voit que le linguistique,
dominateur,
le langage...
C'est ça. Dominateur. C'est pas pour rien qu'on a tué Jaurès. Parce que lui, c'est un poète, c'est un chanteur, il parlait l'occitan, il écrivait la poésie, il était favorable à l'apprentissage des langues régionales par
l'étude
comparative des langues, ce qui est très intelligent.
Tout à fait.
Il n'était pas simplement contre la guerre de 14. Hein.
Oui, on voit tout cet enjeu sociétal.
Ah oui, il était aussi tout ça et boum. Ils l'ont tué. Hein. Enfin, il y en a d'autres qui partageaient son point de vue, mais c'est un exemple que je pose.
Tout à fait.
Et des fois, vu que cette ignorance se cultive aussi, des fois, pour le bien des populations opprimées, on peut penser qu'il est bon
oui.
de faire préférer le français, par exemple, pour qu'ils s'en sortent.
C'est ça.
C'était le réflexe de mon père, pour moi.
Oui, c'était ça pour lui.
Ouais. Ouais. Il m'a dit, il n'a pas... Il était très basque, hein. Mais il a préféré que j'apprenne... Il ne m'a pas empêché de parler basque,
oui.
ni d'aller voir les cousins qui parlaient que basque, mais il a insisté pour que j'apprenne l'anglais.
Ah oui.
Et parce qu'il avait fait la guerre dans la 2e division blindée, il avait connu l'Angleterre, oui. et il avait été frappé par... ben oui, la beauté de cette langue et aussi son utilité.
Bien sûr.
Et donc, au retour au pays, voilà, donc, ça serait bien pour toi que tu apprennes.
Ça serait quand même bien d'avoir cette connaissance de cette langue.
Mais oui.
Bien sûr.
Moi, je dis oui.
Bien sûr.
Mais pas au prix de l'autre.
C'est ça. Mais pas au prix de l'autre. Absolument. Absolument. Mais oui, vous voyez, vous avez raison. Il y a aussi quelquefois cette attitude de dire, oui, faut absolument que tu apprennes celle-là, parce que sinon, voilà, on finit par annihiler l'autre, en tout cas la mettre, elle devient autre.
En tout cas, ceux qui font ça pour le bien,
oui,
ceux-là, on peut les faire réfléchir.
Tout à fait.
Les autres, non, hein. Il n'y a que, il faut,
oui.
je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord combattre et après convaincre.
C'est ça.
Je ne sais pas, mais.
Là, on est devant quelque chose de compliqué.
En tout cas, moi, je suis pour l'école en basque immersive.
Oui.
Voilà. Pour le système... actuellement, il n'y a que les Cachetolas qui le fait. Donc, il faut... voilà. Donc,
il faut pouvoir changer ça, effectivement.
Il faut y aller. Non, mais...
Ça, c'est quelque chose un petit peu d'acquis, mais, vous pensez, ou c'est compliqué
Non. Je pense que c'est acquis. Hein,
ouais. Et,
alors, les pouvoirs publics freinent, ils ont développé
c'est ça.
D'un côté aussi l'enseignement du basque dans l'enseignement public.
Public, oui.
Et ça fait beaucoup de bien aussi.
Bien sûr.
L'enseignement du basque dans les écoles libres a été poussé au maximum.
Au maximum.
Aussi. Donc.
Il y a un peu de la concurrence.
Il y a de la concurrence dans l'air. Et donc, ça a permis
oui.
Que le basque soit quand même maintenu plus que d'autres langues ailleurs.
C'est ça.
Ouais.
Donc ça, c'est important, effectivement. Oui.
Et aujourd'hui, dans l'intelligentsia ou dans le peuple aussi, il y a cette intelligence, ce réveil de s'ouvrir de nouveau. Pas massivement.
Mais un petit peu.
Mais oui. C'est intéressant, ça.
Ah oui, ça met en mouvement, en tout cas.
Oui.
Passionnant.
Alors moi, j'ai vu des trucs incroyables pendant le franquisme, dans des époques très dures, où il y avait des élections dures, etc. Donc on a donné un concert de fois.
Oui.
Dans un quartier d'un village... Et bon, il y avait un petit peu de public, et puis il y avait Arce dans le public, Hoshian qui était là. Donc on fait notre concert, tout ça. Bon, très bien. Et on mange après, on était là. Tout à ce moment-là, il y a un petit homme qui se lève, avec un béret comme ça, très humble. Il n'y avait pas plus basque que lui. Hein. Et d'une manière nonchalamente, il s'appuie sur le poète comme ça.
Oui.
Donc, Rochon le laisse faire.
Ouais.
Et il se met à improviser des vers.
Waouh!
Mais c'était en basque, mais c'était pas en basque. Parce qu'en fait, il savait pas le basque. Et il improvisait d'une manière musicale, tout en vers, tout en pied.
Extraordinaire!
Comme si c'était du basque, mais ça n'était pas.
Mais c'était pas du
c'était
basque.
C'était sublime, hein. Oh,
ça devait être incroyable.
Et
ça.
Là.
Et comment il a réagi alors
Rochon.
Oui.
Il a eu la banane.
Je l'imagine. Et il s'est mis lui aussi à être en écho ou à le laisser faire.
Non. Il a laissé faire au lieu de lui dire mais.
Ben oui, c'est moi qui devrais.
Là,
c'est ça.
Non.
Il l'a accueilli.
C'est un acte d'amour fait au basque quand même.
Mais complètement.
Donc il a laissé.
C'est un geste fort, ouais. Oh, extraordinaire.
Et l'autre, il n'a pas hésité. Hein.
Hop, il y allait, il s'est installé et hop.
Il a mis son bras sur l'épaule du poète.
C'est beau,
du
ça
poète,
aussi. C'est beau.
Qu'il a laissé faire.
Ouais.
Et il s'est mis à improviser en son basque,
ouais.
Mais très élaboré.
Ouais.
Mais qui ne voulait rien dire en basque.
C'est
du
ça.
Point de vue du sens.
En tant que tel, au niveau du sens.
Non.
Incroyable.
C'est, je l'ai vécu, ça. Hein.
Quel moment.
Il y a un moment avec. Mais Rochane, il a laissé faire. Hein.
Ouais, mais je trouve ça merveilleux. Ça, oui. C'est un geste d'humanité
oui.
Extraordinaire.
Puis de reconnaissance du talent aussi.
Et de reconnaissance du talent, absolument. Bravo. Oui, puis le fait, le geste de cette personne de poser la main après qu'il ait entendu aussi déjà le poète dire des choses. Et
ah non, il n'avait pas entendu.
Il n'avait pas encore entendu, d'accord.
Mais il ne savait peut-être même pas que c'était
que
un
c'était
immense poète.
Ouais, donc là, c'était vraiment la découverte la plus ouais. Complète. Oh, il faut oser.
Incroyable, hein.
Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ouais. Mais...
Bon.
C'est ces moments aussi, voilà, que sont ces moments de rassemblement.
Allez voir cette magie qui s'est passée là. Comment
c'est
ça s'est passé là.
C'est ça. Il y a vraiment une magie là, de la rencontre. Là.
Bon, c'est arrivé une fois comme ça. Ça
mais
je sais
oui.
Pas pourquoi. Mais...
On ne sait pas. Ouais.
On ne sait pas pourquoi, mais... Par contre, Rochiane, comme moi, je suis d'une génération où on a m'empêché de parler basque.
Oui.
Donc, à certaines périodes de ma vie, j'ai encore hein, du mal à parler très très bien le basque. Hein.
C'est vrai.
Ouais. Mais donc il le savait. Richard.
Oui, j'imagine. Ouais.
Vous connaissez par cœur, quoi. Mais il me parlait toujours en basque.
Toujours en basque.
Ah oui, toujours. Ah oui, oui. Mais pas du point de vue, t'as qu'à te démerder si tu veux.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Non, non.
Au contraire.
Au contraire.
Facilitateur, quoi.
Au contraire, mais il me prenait.
Ouais. La manière de faire de vous.
C'était pas du tout
oui, oui.
La frustration positive, parce qu'il y en a qui...
Ben oui.
Comment faire pour parler basque? Eh bien, tu crées la frontière. Le basque est tellement beau que si tu frustres quelqu'un, il va l'apprendre. C'est pas comme
d'accord.
Ça, hein.
Oui, de faire apprendre par la frustration.
Oui.
Oui, c'était des méthodes à un moment donné, ça, dans différentes disciplines. Mais je pense pas que ça marche.
Ça marche pas. Mais alors lui, au contraire, il me parlait en basque, mais d'une telle manière qu'il m'a jamais fait sentir. Putain, t'avais, qu'est-ce que t'as fait? T'aurais
oui,
dû l'apprendre depuis le temps que t'es...
Depuis le temps que je te le répète
ouais,
ou...
Jamais.
Jamais, ouais. Ça, c'est quand même un signe... d'une personnalité incroyable, à l'écoute de l'autre, et vous le disiez tout à l'heure, amoureux de l'autre
amoureux,
aussi,
voilà.
Et de la relation avec l'autre.
Il ne m'a jamais fait sentir ça.
Hmm.
Et pourtant, je n'ai fait que parler basque avec lui. Hein.
Oui, c'est ça.
Et lui avec moi.
Et lui avec vous.
Donc il m'a fait beaucoup progresser.
Ouais. Ah, ça, c'est des rencontres majeures, ça, j'imagine.
C'est... Je dois vous le dire, ça.
Ça, je... Complètement.
Ceci dit, maintenant, ma femme le parlait très bien.
C'est vrai. Elle n'est pas basque, votre femme ?
Elle est basque, oui.
Elle est basque.
Mais, bon, elle n'est plus de ce monde.
Ah, mince. Désolé, alors.
Mais vous ne pouvez pas le savoir. je suis bien, je souris en parlant ça.
En parlant d'elle, oui.
C'est récent, en plus, mais ça me permet aussi, moi aussi, de
bien
remonter.
Sûr. Bien sûr.
Et elle parlait très très bien le basque. Dans nos programmes et tout ça,
ouais.
Elle était la première à traduire tout ça.
Ah, oui.
Et nos enfants le parlent très bien.
Hmm.
Donc il y a eu quelque chose
qui s'est transmis.
Qui s'est transmis.
Bien sûr. Ah, c'est chouette. Donc vous jouez avec vos enfants. Vous avez des moments de musique avec eux.
Oui, avec Julen
ouais.
Notamment, qui est un très grand, je dis comme ça, comme
mais oui.
Un très grand chanteur, compositeur
ouais.
Et percussionniste aussi, un batteur aussi.
Ah oui.
Vous pouvez le voir sur le net en faisant Haratago.
D'accord.
Haratago. Uh-huh. Vous verrez de quel bois il se chauffe un peu.
Eh ben, alors ça va être avec plaisir que je vais les découvrir.
Haratago, n'oubliez pas.
Oui.
H-A Arateago. Ça veut dire plus loin. Normalement, le titre,
ça,
c'est
sympa.
Bashe Ahaide Haratago. Plus loin que les Basha Ahaide.
Ah, c'est chouette, ça aussi. Comme,
Mais Basha Ahaide, c'est Haratago.
Oui.
C'est un plus loin. Alors pourquoi ? Parce qu'ils développent le.
Ce qu'on c'est aller un peu plus loin.
Aller un peu plus loin que. Que le Basha Ahaide. Alors le Basha Ahaide, c'est les chants sans parole dédiés aux oiseaux qui sont des trésors du chant basque quand même.
Waouh.
Et nous, pour nous, une grande école.
Oui, c'est ça.
Du chant.
Ça, c'est important aussi, le chant des oiseaux, comme, enfin, avec la relation à la nature, mais comment le chant des oiseaux, là aussi...
Alors, c'est pas imiter les oiseaux.
Non, hein, c'est pas ça.
C'est,
hein, oui.
C'est la calligraphie.
C'est le
poétique,
mouvement, c'est la calligraphie du chant de l'oiseau.
Oui. Sous forme de chant.
Ah, c'est chouette, ça.
Ça s'appelle, en basque, ça s'appelle Basha Ahaide.
Et ça veut dire qu'il y a, comment dirais-je, il y a plusieurs personnes qui travaillent autour de cette notion, de cette relation au niveau du chant des oiseaux. Et...
Oui, alors il y en a qui savent le chanter du point de vue du vivant.
Oui.
Et puis il y en a, comme Julien justement, mais moi aussi, j'ai inventé du coup des bachailles, des nouveaux.
Donc des nouveaux chants d'oiseaux.
Non, ce sont des airs dédiés à des oiseaux.
Voilà, c'est ça.
Alors j'ai inventé un air dédié au gypaète barbu, par exemple.
Et ça fait comment, alors, par exemple ? Vous pourriez, là ?
C'est ça, mais
oui.
en sortant la voix. Hein.
Bien sûr. Oh, wow. C'est touchant.
Oui.
Merci.
Voilà, ça c'est celui que j'ai inventé.
Merci pour cette belle invention. Partager cette invention-là. Ouais. Magnifique. Mmh. Magnifique.
Donc, faut chanter ça à,
dans un espace.
En plein air.
Mais oui, comme on est là aujourd'hui.
Mais en sortant la voix. Hein.
Oui, c'est ça, on l'a
fait
sortir.
Là, j'ai chanté qu'en voix.
Oui.
En voix de tête, mais c'est pour que ça sonne dans les espaces. Là,
oui, pas vous voulu changez chanter, de registre, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Je n'ai pas voulu chanter. C'est un petit modèle réduit.
Mais voilà. C'est très bien. Il était magnifique, ce petit modèle réduit.
Merci.
Mais non, c'est non, vraiment... c'est un grand merci, vraiment sincère, en tout cas, très, très sincère, pour ce moment de partage avec vous.
Voilà, donc il y a des nouveaux chants qui apparaissent.
C'est ça, ça c'est intéressant, ça.
Oui, oui, lui-même, Julen en invente d'autres. Et puis alors, il étudie des formes longues
oui.
qui peuvent permettre d'autres développements.
D'accord.
Parce que moi, j'ai enregistré ce chant, un chant comme ça,
oui.
celui de l'aigle, par exemple. Je l'ai enregistré dans un disque au Cora,
oui.
avec Doneda au sopranino,
ah, oui.
qui jouait... un unisson presque comme l'ombre portée de l'oiseau
d'accord.
sur la terre là.
Oui.
Donc on était, c'était pas un unisson vraiment, mais c'était oiseau ombre sur
oui,
la terre.
Oui. Voilà.
Et l'équanine qui
ah, oui.
lui jouait les espaces à la percussion, les couleurs, les profondeurs, les l'aérien, le sombre des vallées, tout cet univers. Au-dessus duquel l'oiseau volait.
J'entends bien l'inquanin, justement, voilà, être là et se joindre à vous et à Michel Doneda,
voilà.
effectivement, j'imagine.
Voilà. Alors, Julen, il cherche autre chose. C'est pour ça
oui.
qu'il a été étudié le Mugam en Azerbaïdjan aussi, donc
ah, oui.
Directement là-bas.
Oui.
Pour trouver des développements, parce que le Mugam, c'est... Ça commence par une pièce de, je sais pas, 7, 8, 10 minutes.
D'accord.
Et ensuite, il y a un développement de 20, 30 minutes.
Ah, oui.
Et un final, je sais pas moi, entre 3 et 5 minutes.
Ah oui.
C'est une forme, comme il peut y avoir le mouvement lent, le mouvement machin, dans nos formes à nous.
Oui.
Et donc, lui, il a été étudié... ça pour donner d'autres manières de traiter ce que vous avez entendu.
Oui.
Mais alors, porter à pleine voix.
Porter à pleine voix, bien sûr.
Dans des formes qui permettent de l'insérer dans des formes qui amènent autre chose que ce que je puis faire. Ou
oui,
différent.
Bien sûr.
Et voilà, donc c'est intéressant.
Ah,
très
oui,
intéressant. Nous sommes quatre.
D'accord.
Et je trouve que c'est très beau. Alors, Haratago, c'est cette expérience de forme... En fait, ce sont les airs qui sont, au lieu d'être a cappella seulement,
oui.
ou comme on l'a fait avec Michel, qui sont entre guillemets, accompagnés, mais ce n'est pas un accompagnement servile, mais... dialoguant avec des formes jouées par des instruments, suivi de développement sur des rythmes de danse de la montagne, qu'on a, des branles, des choses comme
d'accord.
ça, et qui exaltent en fait ce qu'on a pu entendre avant. Haratago, c'est ça.
C'est ça.
Vous verrez.
Ah, complètement, oui, ça va être très intéressant à découvrir.
Oui, c'est très, très intéressant.
Complètement.
Et parce que les musiciens jouent un rôle très, très beau aussi.
Oui.
Le chant est magnifié.
Oui.
Voilà. Donc, Julen est né dans cette école du chant et chante très, très bien. Et là, l'ensemble est vraiment magnifique.
Ah oui, ça doit être quelque chose d'incroyable.
Oui.
Ah oui,
donc,
ça
il y a la
plaisir.
Clarinette.
Donc, clarinette, voix.
Turque.
Ah oui, clarinette turque, d'accord.
Turque. Donc, elle est jouée par quelqu'un qui est bien connu dans votre région, qui est un élève de Jacques Di Donato.
Ah oui.
Qui s'appelle Nicolas Najotte.
Oui, je de nom, bien sûr.
Il y a un genre de vielle. Il y a la contrebasse baroque, le violon.
Oui.
Ou la contrebasse. Et Doulin au chant avec la percussion ou plusieurs percussions, ça dépend du
Oui.
morceau, jouées à la main.
Jouer à la main, d'accord. Résonance sur Radio B. Comment vous avez fait pour être là, au bon endroit et bien accompagné? Et là, c'est vraiment une question musicale. Benyat Achari. Alors, nous venons d'entendre, à la suite de cette interview, de cet entretien avec Benyat Hachari, deux pièces qui sont en référence avec celle avec laquelle nous avons commencé cette émission. Benyat Hachari nous avait chanté L'Aigle, justement en référence à ce magnifique oiseau. Et là, les deux pièces que nous venons d'entendre font aussi hommage aux oiseaux. Le premier, Le Voyage de la Colombe, toujours interprété avec la chalaparta par Jean-Claude Henrique et Schominders. Et dans cette pièce, les musiciens pensent à la palombe qui rentre d'Afrique au printemps, pleine de rythmes africains. Et puis pour la seconde, elle s'intitule « Les oiseaux, attention », toujours interprétée par ces mêmes interprètes que sont Jean-Claude Henrique et Schominders. Et là, on a une autre situation. Quand les bûcherons s'attaquent à l'habitat, les oiseaux se défendent de leur chant, qui, loin bien sûr de faire fuir les bûcherons, les enchante. Cette pièce a été justement enregistrée en pleine nature, au pied des vieux chênes d'Elizadia à Ishatsu. Voilà, nous arrivons au terme de ce second entretien avec Benyat Hachari. Un beau voyage avec l'homme, le chanteur, l'artiste et aussi la chalaparta. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien évidemment, comme vous le savez, réécouter cette émission. Vous pouvez la podcaster sur le site de Résonance Contemporaine ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Bonne suite avec Radio B et à très vite.